Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est l'histoire d'une femme, une poétesse, une écrivaine, une journaliste, une critique dont la plume acérée, dans des revues aussi prestigieuses que Vogue, Vanity Fair ou le New Yorker, a enthousiasmé ou fait trembler dès les années 20 l'élite intellectuelle et culturelle new-yorkaise. Une scénariste de cinéma aussi qui a travaillé pour Weiler, Hitchcock ou Preminger. Une femme libre et indépendante, une femme de combat aussi contre le racisme ou pour les droits des femmes. De Dorothy Parker, de sa personnalité caustique et hors du commun, de sa vie entre solitude et repas entre amis bien arrosés, de ses nouvelles aussi, comme autant de reflets de son époque, notre invité du jour a fait un personnage de théâtre. Dorothy, un spectacle écrit et interprété par Zabou Bretman, est à l'affiche du théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris jusqu'au 24 octobre, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Zabou Bretman.
Bonjour.
Alors, il faut le dire, le personnage de Dorothy Parker n'est pas très très connu en France. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, ce personnage ?
Je l'ai rencontré en 1982, parce que c'était je pense la première pièce que je jouais, la deuxième si je veux être honnête, mais la première vraiment intéressante, on va dire, et c'était des nouvelles adaptées, enfin des nouvelles, les fameuses nouvelles dont vous parliez là, du New Yorker, qu'elle publiait régulièrement, et il y avait eu déjà un montage de textes différents, dont un des textes que j'interprète d'ailleurs, le coup de téléphone, voilà. Et donc j'avais déjà joué, interprété, on va dire, ces nouvelles. Ensuite j'ai oublié, et ensuite ça m'est revenu comme des petites passoires du temps, vous savez, ça reste, oui. En fait, voilà, ça dépose et vous vous dites mais c'est quand même incroyable ce qu'a écrit cette femme. Et surtout, je suis tombée sur le. Je comptais donc refaire des nouvelles, mais je suis tombée très récemment, forcément, puisque c'est paru en septembre 2020, sur l'incroyable épopée des cendres de Dorothy Parker. Et quand j'ai lu cette histoire, cet article qui est écrit dans un New Yorker, je me suis dit, mais c'est-à-dire que ça ne s'arrêtera jamais, cette espèce de pied de nez à la mort, de solitude extrême et de drôlerie morbide, finalement, elle est à la hauteur de sa mort est à la hauteur de sa vie, quoi. Et donc, c'était cette histoire des cendres qui, quand même, ont été transbahutées partout pendant 48 ans.
Que vous racontez dans le spectacle. D'ailleurs, c'est l'un des premiers thèmes que vous mettez en avant dans le spectacle.
Oui,
et c'est vrai qu'on se dit tout de suite, eh bien, c'est un sacré personnage de théâtre que cette Dorothy Parker.
Et oui, même malgré elle, on va dire que ça va jusqu'au bout du bout. Et de démarrer par l'histoire des cendres a été finalement, l'idée de l'écriture, quoi. C'est comme ça que c'est venu, en fait. J'ai démarré par, comment la raconter et comment donner aux spectateurs suffisamment de mémoire pour pouvoir comprendre qui elle est à travers les nouvelles.
Mais alors justement, qui elle est, Zabou Bretman, pour vous ? Parce que c'est une personnalité tellement complexe, tellement ambivalente, qui est à la fois très drôle et très désespérée à certains moments de sa vie. Enfin, on a un peu l'impression d'un personnage toujours sur la ligne de crête.
Oui, je pense qu'elle est toujours sur la ligne de crête. Alors après, ce n'est que mon interprétation, que ma vision d'elle. Je pense que la surdéfinir, ça serait la trahir beaucoup trop, puisqu'elle-même ne met tellement pas les cases et les étiquettes. Mais j'ai choisi pour le coup cette femme jeune. C'est-à-dire, j'ai prise à partir même de 1918, je cite même une de ses critiques théâtrales, à partir de 18, puisque c'est pendant la grippe espagnole qui ressemble fortement à une époque beaucoup plus contemporaine qui est la nôtre, même si on n'aura pas heureusement autant de morts, mais enfin, il y a quelque chose comme ça qui résonne
avec l'actualité. Donc il y a eu les cendres qui ont été effectivement, qui ont eu lieu l'année dernière en 2020, plus la grippe espagnole, effectivement, ça aussi vous en parlez dans le Covid, par rapport au Covid, ça résonne effectivement.
Ça résonne et je me suis dit, plutôt que de parler
c'est le moment.
Oui, parce que plutôt que de parler à quelqu'un, je pense que l'histoire ne se raconte pas en se mettant au moment où ça s'est passé, mais en se référant toujours à sa propre intimité. Sinon, on ne peut pas comprendre l'histoire. L'être humain n'a pas changé fondamentalement. Les technologies ont changé, mais pas l'être humain, pas les sentiments profonds. Donc, la seule façon pour moi d'approcher un peu la pensée, ou en tout cas la personne qu'elle était de faire que cette intimité-là existe sur scène et de la partager avec le public.
Je le savais. Je le savais que si j'y venais à ce dîner, j'aurais droit exactement à ce vieux poupon sur ma gauche. Ils ont dû me le garder au chaud pendant des semaines. On est obligé de l'avoir au dîner, sa sœur était tellement sympa avec nous à Londres. On n'a qu'à le coller à côté de Madame Parker, elle parle pour deux alors. J'aurais jamais dû venir, jamais. Je suis ici contre mes valeurs profondes. Vendredi, 20h30, procès de Madame Parker contre ses valeurs profondes. C'est un bon truc, ça, qui pourrait graver sur ma tombe. Où qu'elle se rendit, elle le fit toujours contre ses valeurs profondes. C'est le moment idéal de la soirée pour penser à une pierre tombale. J'ai l'effet qu'il avait sur moi. Déjà, la soupe à peine refroidie. Ah, j'aurais dû rester dîner à la maison. J'aurais pu me faire un plateau repas avec la tête de Saint-Jean-Baptiste dessus. J'aurais jamais dû venir. Bon, la soupe est terminée de toute façon. Un pas de plus vers ma dernière demeure, maintenant que la soupe appartient à l'histoire. Et que j'ai dit exactement 4 mots au monsieur à ma gauche, je lui ai dit « bonne cette soupe, non ». Ça fait 4 mots. Il m'a répondu « en effet, oui ». Ça fait 3. Il me bat d'un mot. À tout niveau, on est en accord total, on s'entend comme des agneaux.
Voilà, elle a vraiment autant d'ironie sur elle-même que sur les autres, hein, Dorothy Parker, Zabou Breitman.
Oui, là, c'est ça qui est aussi fascinant à interpréter dans les. Là, c'est une nouvelle qui s'appelle Mais celui à ma droite. Où, alors là, c'est très, évidemment très contemporain. On le connaît, ce dîner, on s'ennuie à mourir.
Ça peut arriver à tout le monde, ce genre
de
situation.
Oui, on se dit, mais pourquoi je suis assis à côté de cette personne-là alors que l'autre à côté, là, a l'air tellement mieux. Et elle s'ennuie à mourir, mais elle utilise d'ailleurs souvent le mot mort. La mort revient très 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 fréquemment. Donc cette nouvelle, je l'ai choisie aussi parce que elle a une évidence, parce qu'elle a un écho immédiat avec des situations qu'on connaît. Alors oui, elle se moque d'elle et elle se moque des autres. C'est quand même la première loi de l'humour, hein, pour moi, se moquer de soi-même, l'autodérision. Mais elle voit avec une hyper lucidité les situations. Elle sent tellement les situations les plus délicates. Parfois c'est très drôle, parfois c'est plus énorme, plus clownesque comme là. Et parfois c'est très 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 fin, très très délicat. Et c'est ça que je trouve merveilleux à partager.
C'est l'intelligence humaine, c'est de l'intuition.
Oui. Oui, c'est ça. C'est l'intuition éclairée, on va dire. Parce qu'elle est très cultivée, cette femme, quand même.
Oui, alors on a un peu l'impression, en voyant le spectacle, qu'elle vit des moments de solitude absolue. Notamment la dernière scène qui est à la fois très drôle et très émouvante. On va pas la raconter précisément, mais c'est vraiment un des climax du spectacle. Sa solitude, Zabou Breitman, pour vous, c'était une solitude subie ou choisie?
Oh, je crois qu'elle l'a choisie, sa solitude. En fait, elle est malheureuse au milieu. Elle est malheureuse avec cet homme qui lui parle de la salade. Elle est malheureuse de la médiocrité. Dès qu'on la qu'on lui rappelle que la vie peut être aussi quelque chose de transparent, ou d'insipide, elle trouve que il vaut mieux mourir. Elle trouve qu'il faut honorer la vie et que sinon c'est pas la peine. Mais elle va tellement loin là-dedans que évidemment vers la fin, c'est-à-dire cette Dorothy Parker qu'on connaît un peu plus, celle des années 40, 50, 60. Elle est tellement désespérée qu'elle dit, par exemple, que le papier, ce qu'elle écrit ne vaut pas le papier sur lequel c'est écrit, ou elle parle de son cercle d'amis qu'elle appelait le cercle vicieux qu'elle adorait, et dont elle dit que c'était une joke. C'est-à-dire qu'elle est, elle détruit tout ce qu'elle-même a fabriqué. Ça, c'est il y a un moment donné où elle arrive plus à rien faire, quoi. Parce que forcément, l'être humain est quand même fait pour être avec les autres et c'est difficile, elle est comme un ermite, quoi.
Oui, parce qu'elle a quand même aussi fréquenté beaucoup les dîners mondains, ce fameux cercle de l'hôtel Algonquin, c'est ça, sur la 5e avenue, où il y avait quand même la fine fleur du monde intellectuel et culturel new-yorkais.
Ah bah oui, il y avait des gens, dont des gens qui la détestaient. Je pense qu'Hemingway la supportait pas, il devait s'écharper, ça devait être extrêmement drôle, surtout que tout le monde buvait énormément.
Oui, ils avaient tous l'alcool en partage.
Voilà, ils avaient l'alcool en partage, et la comédie, parce qu'il y avait quand même W.C. Fields, qui buvait, on le sait, énormément, si on connaît un peu W.C. Fields. Il y avait des gens comme Mankiewicz, il y avait moins qui buvaient, mais enfin, bon, voilà, il était très drôle. Et il y avait des gens comme Harpo Marx, et elle était copine avec les Marx Brothers, entre autres, hein, il y a plein d'autres. Hein. Tout le monde me dit, oui, mais il y avait aussi un tel, ou il y avait aussi une telle. Je dis, oui, mais je suis obligée de choisir, et donc de renoncer.
Oui, mais c'était une vraie bande ou bien c'était des amitiés en forme de renvoi d'ascenseur et d'intérêt partagé?
Oh non, je pense que c'était non, elle avait pas ça, elle. Non, c'était une morale profonde. C'est pas une morale de posture. C'est pas. Je pense que c'était quelqu'un qui aimait profondément et absolument, voilà. Et rien n'était. Il n'y avait pas possibilité du bémol, par exemple. Donc ça devait être infernal, en fait. Mais elle était, Je trouve ça assez drôle parce que en même temps, parce qu'on parle de grands films qu'elle a coécrits ou de choses merveilleuses, il y a aussi un aspect d'elle dont je parle pas beaucoup mais qui est quand même très révélateur, c'est qu'elle écrivait aussi pour des séries B voire des séries Z, des films de série Z, c'est-à-dire des trucs, des dialogues. On l'appelait à la rescousse parce qu'elle était très forte et très rapide. Et je pense qu'elle a écrit 2-3 perles dans des péplums méconnus, mais qu'il faut absolument aller voir à mon avis parce que juste pour, il doit y avoir 2-3 dialogues à mourir de rire en plein milieu, juste parce que de temps en temps, dire oh bon là on va lui faire dire ça et que. Donc il y a une légèreté, une liberté et même une irrévérence par rapport à sa propre intelligence.
Oui, jusqu'à parfois aller jusqu'à son propre désintérêt en quelque sorte, parce qu'elle a subi aussi les conséquences de ce qu'elle a écrit, en particulier de ses critiques.
Bien sûr, ah bah évidemment, elle était.
Les fameuses comédies musicales de Broadway qu'elle a assassinées, lui a quand même coûté sa place.
Ça lui a coûté sa place, bien sûr, elle s'est fait virer quand même, oui. Mais en même temps, elle avait peur de rien. Elle fonde la Ligue anti-nazie. Elle se fait éjecter aussi par le McCarthyisme. Elle va faire des choses qui sont quand elle lègue ses biens à Martin Luther King. Elle est en 67. Il y a un tollé contre elle. Je crois que c'est la première personne blanche qui a légué sa fortune à une cause. Et c'est pas un copain à elle. Elle le connaît pas. Elle trouve que la cause est juste.
I wish I could go traveling again. It feels like the summer will never end. And I've had such good offers from several of my friends. I wish I could go traveling again. I want to sit in my shade, sipping my latte beneath the awning of a famous cafe. Jet-lagged and with our luggage gone astray. I wish I could go traveling again. I want a waiter to give us a reprimand in a language neither of us understand. While we argue about the customs of the land, I wish I could go traveling again. I wanna sit in traffic, anxious about our plane, while your blasé comments drive me half insane. Shelter with you through the tropical rain. I wish I could go traveling again. I wanna be awakened by a faulty fire alarm in an overpriced hotel devoid of charm, then fall asleep again back in your arms. I wish I could go traveling.
I wish I could traveling again. Stacey Kent, extrait de son nouvel album Songs from Other Places dans VMDN sur RFI. Zabou Breitman est avec nous pour son spectacle Dorothy à l'affiche jusqu'au 24 octobre et sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin. Zabou Breitman, vous êtes toute seule et vous vous occupez vous-même et au vu des spectateurs de la régie son, de la régie lumière grâce à une table de mixage et un pupitre lumière. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même?
Oh non, ça, pas du tout ça. Non, je pense que des régisseurs lumière et son sont beaucoup plus rassurants. L'idée, c'était de fabriquer à vue un spectacle, de le rendre extrêmement artisanal et de partir d'un truc qui pourrait être quasiment un stand-up, éclairé partout, voilà, dans la salle aussi bien que sur scène, et de démarrer sans démarrer, qu'il n'y ait pas de début.
D'ailleurs, vous êtes déjà sur scène lorsque le spectateur rentre dans la salle.
Je parle aux gens, ça dépend des soirs, je leur dis pas les mêmes choses, ça dépend ce qui se passe. Et j'attaque comme si on n'entrait pas dans le spectacle. Comme si... En fait, l'idée, c'est de garder le plus longtemps possible le respect de la connivence et de l'intimité.
Ouais. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui se poursuit tout au long du spectacle. Dès le début, vous cassez ce quatrième mur. On peut pas dire vous le cassez, d'ailleurs, puisqu'il n'existe pas. Puisque quand on rentre dans la salle, déjà, il n'est pas là. Mais comment ça se construit, justement? Je sais pas s'il y a une recette. Ouais, mais comment ça se construit, une complicité, quand on est seul en scène, entre vous et la salle?
Alors, il y a l'idée de construire la complicité et l'anticonformisme. Je parle de quelqu'un qui est anticonformiste, j'avais envie de faire un spectacle qui ne soit pas conformiste. Donc, voilà, ça c'était une première idée. Après, c'est flou, c'est moins organisé que ça dans ma tête, et pourtant c'est très organisé, tout se répond, mais j'aimais bien l'idée de... En fait, l'idée de base, c'est parler au public d'une manière qui n'est pas normale, qui n'est pas habituelle, on va dire.
Donc c'est vrai qu'au départ, on est déstabilisé.
Oui, parce que les gens ne répondent pas.
Mais ça a commencé, ça n'a pas commencé.
Absolument.
Voilà. C'est normal, c'est prévu. Elle récite un texte ou elle improvise.
Voilà. J'adore l'idée qu'on ne sache pas ça et que au niveau du comportement du public, il faut le nourrir d'une certaine façon. C'est comme si on organisait un petit chemin. C'est un petit chemin, mais un petit chemin qu'on va partager, un petit chemin qu'on fait ensemble, à deux, j'allais dire, parce que c'est une entité à ce moment-là, le public, mais qu'on fait à deux. D'ailleurs, on se balade, mais l'intéressant, je trouve, c'est donner une mémoire au public. Or, comme on ne sait pas qui c'est exactement, je raconte comment c'est quoi son histoire de mort, qui les fait rire, bien sûr. Or, on parle de la mort tout le temps, et ça fait rire tout le temps. C'est pas rien. Mais c'est là, c'est comme si c'était en substance. On n'y pense plus, c'est pas grave. Ensuite, je raconte la prohibition et puis le vote des femmes qui se passe en même temps, ce que la plupart des gens ignorent. 18 et 18e amendement sont liés. Et puis ça fait que quand je raconte ou je joue des histoires du New Yorker, le public, il est pas comme une coquille vide qui vient voir un truc. Il est chargé de toutes ces petites histoires qui commencent à faire un petit tapis d'histoires et qui commencent à poser le personnage vraiment pour aller jusqu'à la fin qui devient uniquement du théâtre. Et tout est lié d'une manière. J'aime bien que les choses soient liées d'une manière un peu invisible. Voilà.
Mais pour revenir au dispositif Zavod Breitman, parce qu'il est quand même visible ce dispositif, donc voilà. C'est ces fameux pupitres que vous manœuvrez vous-même. Il y a les grandes caméras, un peu de cinéma, les projecteurs en fait, projecteurs, voilà, avec des filtres que vous actionnez aussi. On a un peu l'impression que vous voulez montrer aux spectateurs les ficelles finalement du théâtre et du spectacle.
L'idée, c'est de montrer et que ça ne change rien au fait qu'on voit quand même un spectacle. C'est pas parce qu'on voit les coulisses. C'est ça l'idée. C'est pas parce qu'on voit les coulisses qu'on voit pas le spectacle. C'est pas parce qu'on explique un tour de magie que la magie n'existe pas. C'est ça l'idée. C'est-à-dire de faire confiance suffisamment, de dire on est presque ensemble à ce moment-là. On est presque ensemble. Vous savez tout comment c'est fait. Et je vous fais suffisamment confiance pour y aller.
Mais c'est vous vraiment qui devrez les lumières, le son, etc. C'est pas du chiquet.
Ah non, c'est pas du chiquet, ça fait très peur, parce que, évidemment,
c'est aussi un travail de précision, c'est-à-dire il faut envoyer tel ou tel élément à la seconde près par rapport à votre texte.
Alors ils ont tous très bien travaillé pour m'organiser ça, ce qui est pas du tout évident. C'est pas facile pour eux. Et par rapport au son, par exemple, il me l'a fabriqué le petit objet là, la petite console son. Elle est faite sur mesure pour moi. Il a même fait graver Dorothy. C'est vraiment super joli. Et il s'est débrouillé pour que les boutons soient un tout petit peu lumineux au cas où je me trompe, pour pas envoyer le mauvais son. Ça m'est arrivé de me tromper, de pas ouvrir le micro suffisamment, de laisser le micro ouvert, il m'est arrivé de pas envoyer les bons, enfin bon, je sais pas faire des termes techniques, mais c'est vrai que j'ai intérêt à pas me planter, quoi. Et je me suis plantée à Avignon, ça m'est arrivé deux fois dans la rapidité des changements, puisqu'on joue plusieurs spectacles, de pas envoyer quelque chose ou qu'un ce qu'on appelle le go, parce qu'il y a des gens qui me disent, bah oui, mais tout à coup, la musique, elle se fait alors quand la lumière se fait alors qu'en fait, t'es assise. Mais ça s'appelle un délai, et ça existe. Voilà. Et c'est un go, un bouton sur lequel j'appuie, et la mémoire a été mise en place. Mais non, il y a personne d'autre qui active quoi que ce soit.
Et puis, il y a le paravent, Sabo Bretman. Alors, important, le paravent, il permet...
Vous êtes le premier à m'en parler.
Ah, mais c'est vrai. Ah, bah, c'est très important, parce qu'il permet de séquencer le spectacle en assurant une forme de fluidité entre des épisodes qui ne sont pas forcément dans la même temporalité.
Ah bah, je suis contente que vous m'en parliez de ce paravent. Vous savez, je suis très fan de paravent. Dans le système Ribadier, il y avait un paravent. Oui. Je trouve que le paravent, c'est exactement la magie. C'est pile ça. On voit qu'il y a un paravent, on imagine qu'il y a des trucs derrière, mais ce qu'on voit n'est pas exactement ce qu'on croit. Et d'ailleurs, il va proposer, grâce à ce paravent, je peux faire un truc de magie.
Oui.
Qui est un vrai truc de magie d'ailleurs. Mais le paravent, c'est exactement la même chose que le code... Que montrer sans montrer, c'est-à-dire que je me change derrière, je fais pas grand-chose, bon, je fais des
tout
machins.
Tout en continuant avec le texte, hein, parce qu'il y a pas de temps mort. Hein.
Alors ça a été le plus dur. Ça a été le plus dur. C'est pas de jouer les scènes. Bon, je les ai jouées. J'ai un directeur d'acteur heureusement qui est venu parce que là c'est impossible. Mais finalement, c'est là où on a le plus travaillé. C'est dans les changements, parce que c'est un endroit extrêmement périlleux pour l'acteur. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, je suis à la fois dans une fausse improvisation, donc le texte est quand même fixé, et donc je m'adresse au public, que je regarde, donc ça fait peur un petit peu, d'accord? Et je, l'air de rien, je me change, je fais des bidules, et ça c'est le plus dur, ça a été le plus difficile, c'est de continuer à être intéressé moi-même par ce que je raconte, et à vouloir... C'est l'histoire du guide, le guide touristique. Hein. Quand je raconte le guide touristique, en fait, je suis le guide touristique. Je m'en suis aperçu, mais il y a quoi? Il y a quelques jours. Je me dis, mais en fait, je suis le guide touristique. C'est quoi transmettre une passion? Bah, c'est ce que je fais, en fait. Et je suis ce fameux Kevin Fitzpatrick, là, qui existe vraiment, bien sûr. Et je suis lui. Et je trouvais ça très rigolo. Et en même temps, des crises de parano, je crois que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai fait des cauchemars.
Ah oui, à ce point-là.
Ouais, à ce point-là, ouais.
Bon, alors vous... passer donc d'un personnage à l'autre, d'un costume à un autre, donc robe, pantalon, déshabillé très chic, personnage très élégant d'ailleurs.
Ah ouais, elle adorait la mode.
Elle adorait les tenues,
c'est marrant, c'était très attaché à des choses. Elle adorait la mode parce que c'est artistique, parce que c'est de l'art. Et elle aimait les grands couturiers, elle trouvait que c'était qu'il y avait un vrai travail artistique. Elle aime l'art et elle trouvait que il y a rien de plus vain que de pas bien faire quelque chose. Aurait rien de plus inutile que l'art et pourtant il y a rien de plus essentiel si on le fait bien.
Il y a les chaussures aussi, notamment celles que vous enfilez pour vous lancer dans un petit numéro de claquettes. Vous l'avez appris juste pour le spectacle.
Bah,
vous avez parti de vos dons artistiques de toujours.
Pas mon don. Hein. Faut que je répète parce que j'ai trouvé que je me suis plantée la dernière fois. J'en étais malade. Je me dis, s'il y a un danseur dans la salle, il doit avoir honte, quoi. Ah non, ça c'est.
Mais faut oser quand même.
Bah ouais, faut oser. Je me dis parfois, mais pourquoi je fais ça, quoi? Je suis malade. J'avais envie parce que je trouvais que c'était...
Mais elle faisait pas de claquettes, la vraie Dorothy Parker.
Pas du tout. Non, pas du tout. Mais il y a un côté absurde. Il y a un côté musical. On entend un Ella Fitzgerald qui chante, et c'est un morceau écrit par Dorothy Parker. I Wished on the Moon, c'est Dorothy Parker qui l'a écrit. Elle a écrit des choses incroyables. Et ces morceaux de claquettes, bah ce sont ces années-là. Sur cette musique-là, c'est une respiration et c'est une forme d'anticonforme. J'ai envie, je vais le faire. Il y a un truc comme ça.
Comment vous l'avez construit, ce spectacle, Sabo Bretman? À partir de quelles sources documentaires? Vous avez lu et relu, j'imagine, les articles en particulier, mais vous êtes inspiré aussi d'autres sources, je sais pas, des films, des documentaires.
Sur Arte qui était paru sur la prohibition. Et qui m'était
resté. C'est plus pour le contexte, alors que vous avez eu besoin d'autres sources.
En fait.
Que pour le personnage.
En fait, ça se passe pas comme ça. En fait, je regarde des trucs qui me plaisent. Mais pas forcément de manière utile. Enfin, c'est pas pour faire quelque chose. Et puis tout à coup, ça me revient, d'accord. Et j'ai mon petit panier à projets on va dire. Oui. Et comme j'en ai plusieurs en même temps, je les mets dans le bon panier, quoi. Je me dis, oh, mais tiens, mais ce truc-là, c'est vachement intéressant. Et donc, je regarde ce documentaire incroyable sur la prohibition. Je vois l'histoire des femmes, donc avec les grands mouvements pour la tempérance, et puis les femmes qui se mettent à... Et divers mouvements de femmes, d'ailleurs, très différents, qui se mettent à agir contre l'ivrognerie des hommes. C'est surtout les hommes qui picolent, parce qu'ils vont dans les tavernes. Après, elles vont picoler dans les speakeasy, dans les bars clandestins, elles vont devenir alcooliques. Enfin, voilà, tout ça a été super. Et donc, la prohibition, je vois l'histoire du vote des femmes juste à côté. Et je me dis, mais enfin, c'est lié alors? Mais c'est lié. Donc, je regarde, je dis, bah oui, ça a l'air lié.
18e et 19e amendement de la Constitution des États-Unis.
Et je regarde, et en regardant, je trouve un article. Là, je regarde de manière précise, et je trouve un article d'une femme qui écrit que dire que le 18e amendement a été une catastrophe est un euphémisme, parce que ça a été monstrueux. Et donc, le 19e amendement est complètement lié. Parce que les femmes entrées en politique dans les années, parce qu'elles ont eu le droit de vote, grâce au fait qu'elles manifestaient avant, ont finalement elles-mêmes démoli ce qu'elles avaient construit. C'est-à-dire qu'elles ont dit, il faut une abrogation totale du 18e. Donc les mêmes femmes, hein, nommément, hein, qui avaient demandé le 18e, ont dit, on arrête tout, on s'est trompé. Et je me dis, tiens, c'est vraiment des femmes pour dire on s'est trompé. Un point, point.
Ça vous prête pas dans VMDN sur RFI. Alors, comment vous avez fait pour passer des articles du New Yorker en particulier, il y en a d'autres, mais des articles même à un texte de théâtre? Adapter, c'est trahir ou pas?
Oui, forcément. D'abord parce que je n'ai pas tout gardé. Parce que quand on est lecteur, on se fabrique ses images. Quand on est spectateur, on est sclérosé. L'image est sclérosée forcément. Elle est ratatinée un peu. C'est chouette, c'est sympa. Mais enfin, on se fait pas exactement sa propre image, hein, bien entendu. La radio, c'est un peu comme la littérature. C'est pour ça que j'aime bien la radio, parce que on se fait quand même ses images.
Absolument. Donc, surtout quand elle n'est pas filmée.
Surtout quand... On est d'accord. Mais il y a des petites caméras. On est filmé ou pas?
Ah, non, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas.
Bravo. Bah oui, il faut garder cette espèce. Bah, c'est la littérature. Et on a encore l'espace de l'image. Quand on lit, donc, on a l'espace de l'image. Donc, je me fais mes images. Et après, je me dis, bah oui, mais ça, je vais le jouer. Je vais être là. J'ai pas la peine que je le dise. Donc, il est arrivé plusieurs moments que j'ai coupé. Pas mal de choses, et aussi parce que en tant que lecteur, par exemple, il y a une scène dans un bar clandestin, un speakeasy, où ils sont en train de se bourrer la gueule, et on passe par toutes les stades de l'ivrognerie, et c'est beaucoup plus long dans la nouvelle qu'elle a écrite dans le New Yorker, et là il fallait réduire pour que ça soit envisageable et qu'on ne tue pas l'attente, parce que les spectateurs se doutent de ce qui va arriver, et à force de montrer ce qu'on sait qui va arriver, on peut être fatigué, quoi. Donc alors, ça, c'est un choix de, voilà.
Alors, on va prendre un autre exemple, un extrait inspiré par une chronique du New Yorker datée du 30 octobre 1926. Sur scène, je le répète, vous êtes seul, mais vous faites dialoguer deux personnages.
J'adore voyager. Alors, Freddy me dit tout le temps, file-moi 2-3 lingots, une lettre de crédit et taille la route, demande de lui voir. Oh, ça va mourir de rire. Alors, pas plus tard qu'hier, à dîner, je lui disais, on était tous les deux, les Warren devaient venir, puis au dernier moment, leur bébé a été malade. Pauvre petite chose, il est tellement maigrichon qu'il fait peur à voir. Oh, faut absolument que j'appelle Kate pour prendre de ses nouvelles. Freddy doit absolument m'y faire penser. Oui, alors, je lui disais, un de ces quatre, tu me verras plus assise là, j'embarque une brosse à dents, une paire de collants de rechange, et aux prochaines nouvelles, hop, je suis en Inde ou en Égypte ou quelque part. Oh, je suis une voyageuse née, moi. Hein. Ah oui? L'Arabie. Non, mais vous imaginez un peu. Alors, allez-y, racontez-moi. Alors, comment vous avez aimé? Eh ben, j'ai passé un beau moment. Vous imaginez un peu. Tout là-bas. Oh, ben je me suis souvent interrogée sur l'Arabie. Alors allez-y, racontez-moi. Alors c'est quoi? Alors il y a plein de sable et tout, non? Oui, bien sûr. Hein, y en a. Du sable? Oh, ne m'en sablez pas! Après cet été à Dunarbourg, j'en ai eu assez du sable, merci bien. Je pourrais écrire un livre sur le sable. Plein les chaussures, quoi que vous fassiez. Pour les enfants, quand ça aime partout dans la maison, je pensais devenir folle. Ah oui, j'ai vraiment cru devenir dingue. Vous êtes déjà allé à Dunarbourg? Non, jamais, non. Ben, n'y allez pas! Il n'y a que du sable. Ah, vous avez tout le sable que vous voulez là-bas. C'est même pas la peine d'aller en Arabie.
Comment on fait, Zabou Breitman, pour passer comme ça en une milliseconde, d'une mini-réplique à une autre et d'un personnage, surtout, à l'autre?
Mon travail. Mais énormément. Et un travail énorme. Parce que c'est pas seulement savoir le texte, c'est le savoir très, 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 très bien. Ça, c'est valable pour tout. mais aussi c'est pas parce que je me coupe moi-même la parole, donc voilà. Oui. Mais c'est pas parce qu'on fait ça qu'on doit aller vite. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire, faut pas confondre couper la parole et aller vite. Mais ça, déjà, au cinéma, quand vous faites couper la parole en France, souvent les gens ont du mal à se chevaucher, on appelle ça, hein, ou se tuiler. Et en fait, c'est les gens se précipitent, se dépêchent vers. Alors qu'il n'y a pas la peine de se précipiter. Il faut juste garder une espèce de rythme. C'est un petit peu comme. Donc là, je vais le décrire puisque on est à la radio. C'est un petit peu comme quand on fait un petit rond sur sa tête et qu'on se tape sur le ventre et après on change. Oui. Il y a un truc comme ça, extrêmement difficile. Enfin, j'ai trouvé ça très difficile. J'adore. En fait, j'aime pas que ce soit difficile, mais j'adore que ce soit tellement travaillé que je finisse par y arriver. Ça,
donc,
ça me plaît.
Donc, c'est d'abord une question de ton et de mots plus qu'une question de posture.
Ouais, ouais. Il y a un travail. Comment dire ? Il y a un travail d'ultra répétition. Pas du tout sympathique.
C'est pas du tout rigolo. Ça veut dire l'idée, c'est d'arriver à des formes d'automatisme.
Absolument, c'est exactement ça.
Il faut plus prendre le temps de réfléchir.
Non, faut pas réfléchir. Et ensuite, on replace le jeu.
Voilà, parce que quelle place pour l'interprétation dans l'automatisme ? C'est un peu contradictoire, ça.
C'est exactement ça. Non, il faut être absolument contraint totalement pour trouver sa liberté de jeu. Il y a rien de pire que soi-disant l'impro. L'impro qui est... Ouais, mais c'est-à-dire quoi ? Alors, donc un jour c'est bien, le lendemain c'est nul. Donc c'est pas vrai. Donc il faut retrouver l'innocence dans la contrainte.
Mais est-ce que ça passe aussi par le maquillage, Zabou Breitman ? Alors je sais pas, parce que je suis peut-être un peu bigleux, mais quand vous passez d'un profil à un autre, puisque vous passez justement de ce monsieur à cette dame, vous tournez évidemment la tête d'un côté et de l'autre, et vos deux profils ont l'air extrêmement différents de la salle de théâtre de la Porte-Saint-Martin.
On est différents, déjà.
Oui.
Et ensuite, je crois qu'il y a une petite barrette dans ma petite perruque que j'adore. Une petite barrette, et d'un côté, et l'autre, non. Et ça change le visage vraiment, ça change vraiment ça change la tête.
Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir, habillés de candeur? Qu'est-elle devenue, cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassées. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence? L'insouciance était-elle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel? Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci du poids de l'existence. Nos corps alanguis, jouissant de la douceur d'une soirée d'or.
De l'existence, et la voix d'Émilie Loiseau dans VMDN sur RFI avec Zabou Breitman qui présente Dorothy jusqu'au 24 octobre au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Elle le ressentait aussi, hein, le poids de l'existence, Dorothy Parker, Zabou Breitman.
Ah oui, je pense qu'elle a essayé d'y échapper d'ailleurs à ce poids de l'existence 3 ou 4 fois. durant sa vie. Et elle a même écrit un poème là-dessus sur le suicide, qui est un poème complètement dingue.
Elle a fait elle-même plusieurs tentatives de suicide. Même bébé. Hein, sa maman est morte très très jeune, je crois. Elle était jeune.
Oui, elle était jeune. En fait, elle était très très triste parce qu'elle voulait faire des très hautes études. Elle était très bonne en. Et elle avait quand son père est mort, elle avait une vingtaine d'années quand tout le monde est parti. Mais elle était très malheureuse de pas pouvoir continuer ses études. Elle a dû travailler tout de suite, quoi.
Chère Madame Parker, venez dîner chez nous vendredi prochain et n'oubliez pas votre carnet de croquis.
Oh, j'aurais pu apporter le tiroir du haut de ma commode et ranger le bazar là sur mes genoux. J'aurais vraiment pu m'avancer pour coller les photos de groupe sur la plage dans mon album. Je me demande si la maîtresse de maison trouverait ça bizarre si je lui demandais un paquet de cartes. Je me demande s'ils n'ont pas besoin d'un petit coup de main en cuisine. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a envie que je sorte en courant pour acheter le journal. Oh, je pourrais m'en jeter un derrière la cravate, évidemment, toute seule comme une grande. Il y a toujours cette solution. Oh là 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 là, il y a toujours cette solution. Non, je ne vais pas boire, je vais avoir le vin triste. J'ai le spleen avant de commencer. Je me demande ce que dirait mon petit bout de bois sur la gauche si je lui annonçais que j'étais bien partie pour avoir le vin triste. Non, mais regardez-le chipoter dans son poisson. Mais qu'est-ce qu'il s'en fiche que j'ai le vin triste ? Son esprit ne peut s'élever au-delà de la nourriture. Il est matériel, un point, c'est tout. Il creuse sa tombe avec ses dents. Voilà ce qu'il fait. Ouais, tu creuses ta tombe avec tes dents. Ton dieu, c'est ton estomac. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il s'en fiche que j'ai le vin triste. Tout le monde s'en fiche, personne n'en a rien à foutre. Et moi, là, toute sympa. Ok, bande de goinfres, eh ben, je vais boire en crever juste devant vos yeux. On va voir comment vous vous sentez. Allez, c'est parti. Ah, du Chablis. Ah, c'est une année où il n'y avait plus de raisins, ils les ont remplacés par des courgettes.
Voilà, donc évidemment, le rire, hein, au bout de la réplique, Zabou Breitman, elle avait un vrai problème avec l'alcool, Dorothy Parker, et en même temps, elle est donc un peu à l'origine quand même de la prohibition. Il n'y a pas un problème là, quand même, de logique dans son parcours ?
Mais non, pas du tout, parce que elle peut avoir individuellement avoir des problèmes. Elle pensait pas qu'elle avait des problèmes. Elle était très ravie de boire. Oui. En revanche, elle aimait pas avoir le vin triste, ça c'est sûr. Mais elle abondait dans le sens de toutes ces femmes qui voyaient. Elle bossait, mais la plupart des femmes ne travaillaient pas. Et effectivement, comme les payes étaient le samedi, donc les types buvaient, c'était des hommes qui buvaient, ils tabassaient tout le monde et ruinaient toute la famille, puisqu'il y avait qu'eux qui travaillaient. Donc il y avait plus, c'était la catastrophe dans l'Amérique de ces années-là. Et ça a été encore pire après, évidemment, parce qu'on a vu que la prohibition, ça fait exactement l'effet inverse. Hein, oui. Mais elle était. Et puis il y a eu tout un mouvement très féministe, il y a eu un mouvement très religieux, il y a eu 3-4 mouvements de femmes très différents, dont certaines qui ont dit que c'était les fous livres au visage sombre qui mettaient en péril les familles blanches, dont elles ne faisaient évidemment pas partie, et qui ont fait que, oui, elles ont obtenu le droit de vote, mais pour les blanches.
Alors, 1919, elle lance un appel aux femmes américaines pour qu'elles demandent le rappel des soldats, donc des hommes qui étaient cantonnés en Allemagne. C'était d'ailleurs le cas de son mari, hein, je parle sous votre contrôle. Ensuite, donc, elle lègue, hein, beaucoup plus tard, évidemment, ses droits d'auteur à Martin Luther King. Vous l'avez dit, féministe, antiraciste, vous disiez tout à l'heure qu'elle n'avait pas trop les étiquettes.
Elle n'était pas féministe. Elle n'aurait pas dit. Elle aurait, aujourd'hui, jamais de la vie. Elle aurait eu zéro hashtag, hein, je peux vous dire.
Zéro hashtag.
Ouais.
Vous dites d'ailleurs qu'elle détestait le mot engagé.
Ah oui, non, elle n'aimait pas
ça. Parce que là, ça va très très loin quand même. Engagé, c'est un beau mot, engagé, Zabou Breitman. Enfin, surtout quand c'est contre le racisme ou contre.
Oui, mais.
Ou en faveur du droit des femmes.
Non, le mot engagé, vous savez bien que les mots se vident de leur sens petit à petit, hein, plus on avance. Et donc, un mot vidé de son sens, on n'ose plus l'utiliser à sa juste valeur parce qu'on sait bien qu'il n'est pas compris comme tel. Donc c'est comme ça. D'ailleurs, au début, j'avais mis engagé, vous savez, et j'ai lu un article d'une auteure, d'une autrice qui disait faut arrêter avec ce terme-là, Dorothy Parker. Elle est tout sauf ça. J'avais lu cet article, je sais plus dans quoi, dans un journal américain, et j'ai lu ce truc-là, j'ai dit oh là là, mais alors j'ai écrit ce que j'ai lu, c'est-à-dire, j'allais dire engagé, ce qui est vrai, j'allais dire engagé, mais je pense qu'elle aurait pas aimé ce mot-là.
On peut lire aujourd'hui en français Dorothy Parker, Zabo Breitman.
Oui, oui.
Si
il y a plein de traductions. Oui,
nos auditeurs qui voudraient la lire, quel livre vous le conseillez?
Il y a Journée atroce demain, qui est un recueil de certaines nouvelles, parce qu'il y en a tellement des nouvelles qu'il y a eu plusieurs traductions qui ne répertorient pas les mêmes nouvelles, d'accord. Il y a Journée atroce demain, il y a La vie à deux, en fait ils ont des titres différents et parfois on retrouve les mêmes nouvelles à l'intérieur, donc personne s'est mis d'accord visiblement. Et il y a aussi Hymne à la haine, qu'elle a écrit donc un peu plus tard. C'est pas quelqu'un qui... Oui, elle est dans l'amour et le désamour. Hein.
Merci beaucoup, Zabo Breitman.
Merci de m'avoir reçu.
Dorothy, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, jusqu'au 24 octobre. Et bonjour à vous, Alain Pilou.
Bonjour Jean-François, bonjour Zabo Breitman.
Bonjour.
Hold on, hold on tight. We've been missing the same thing all along the line.
Loneliness of May, Victor Mécanique dans VMDN sur RFI, un extrait à l'un de son premier album Singer. Alors dites-nous, d'où est-il originaire ce garçon et qui est-il?
Il vient de la banlieue parisienne Est et plus précisément de Vincennes. Il est auteur, compositeur et interprète et joue de la guitare et des claviers.
Et quel est son style musical?
C'est de la pop, mais c'est tellement vaste comme terme. Victor Mécanique dirait, pour être plus précis, que c'est de la pop influencée par les années 70. Il a été bercé par les Beatles, il a apprécié la pop mélodique. Victor utilise des guitares et des claviers, mais en même temps, il aime utiliser l'aspect électronique que l'on retrouve dans la musique de Prince ou de Michael Jackson. L'une de ses grosses influences est Stevie Wonder. Dans tous les cas, tous ces artistes se retrouvent sous le chapeau de la pop. Mais que trouve-t-on sous le chapeau de ce long format de Victor Mécanique?
Cet opus rassemble des chansons que j'ai écrites, je dirais, sur une période de 5 ans à peu près. Même si je dirais qu'il y en a la moitié qui ont été écrites l'année dernière, juste avant de l'enregistrer, il y en a 5 autres qui m'ont vraiment été des phases extrêmement importantes de ma vie. C'est des morceaux que j'ai mis très longtemps à écrire, notamment Singer, que j'ai commencé en 2015 et que j'ai terminé en 2020. Et c'est énorme. Enfin, pour moi, parce que je suis revenu sur le refrain énormément. Ça a été une chanson qui m'a poursuivi, qui m'a obsédé. Et je savais qu'à un moment, il fallait que je la sorte. C'est une manière aussi de me faire du bien à moi, tout ça. Je voulais sortir cet album pour montrer tout ce que j'avais fait à ce moment-là. Toutes ces chansons racontent des étapes de ma vie. Après, il n'y a rien de... Comment dire? Il n'y a pas de message derrière tout ça. Moi, j'écris juste des chansons cool, simples, des moments de vie que je raconte un peu comme je peux, avec mes armes. Je ne suis pas le genre d'artiste, en tout cas pour le moment, à avoir un message à donner, à avoir un fond derrière. Moi, la seule chose que je veux, c'est qu'on écoute ma musique, qu'on soit content de l'écouter et que ça fasse du bien, en fait. Qu'on ait envie de prendre la bagnole, de l'écouter en bagnole et être content de l'écouter en bagnole. Qu'on ait envie de faire la bouffe à midi et d'écouter mon disque ou une chanson. C'est aussi simple que ça.
Will you ask me why I wanna be a singer?
Singer, Victor Mécanique, idéal effectivement pour un petit trajet sympa en voiture. Alors dites-nous Alain, qu'est-ce qu'il a fait avant de se lancer en solo?
Alors lui, contrairement à Dorothy Parker, est loin d'être un ermite. Il a eu 3 ou 4 groupes. Sa première formation s'appelait People in My Head. Il a fait ses armes entre ses 14 et 22 ans. Cela a été son groupe le plus long. Même s'il s'adorait et qu'il faisait beaucoup de musique ensemble, personne ne voyait vraiment le sérieux et la vraie carrière qu'ils auraient pu faire. Victor a arrêté cette histoire et a rencontré d'autres amis avec qui il a monté d'autres projets musicaux, dont un groupe de rock psychédélique et Family Affair, dans lequel Victor est toujours à l'intérieur de ce groupe, il évolue encore. Il y a également plusieurs vidéos disponibles sur YouTube avec Théo Laurence. Ce qu'il n'aimait pas avec les groupes, c'était le fait de ne pas pouvoir penser sa musique tout seul. Il en avait un peu marre de devoir rendre des comptes à quelqu'un au niveau de la musique. En fait, Victor aime bien écrire tout seul. I wrote a little song, chante-t-il, mais qu'est-ce que pour lui une petite chanson?
Ça, c'est marrant, ça, comme question. C'est fait partie des phrases, par exemple, ça que je trouve un petit peu sur le pouce. C'est des mots qui me viennent naturellement, a little song, parce que c'est ce que je fais, en fait, tout simplement. J'écris, du coup, des petites chansons. Donc, dans cette chanson-là, On the Sunny Side, je l'ai dit tout simplement. La suite de la phrase, c'est locked it in a bottle and threw it into the ocean. Donc, je l'ai mise dans une bouteille et je l'ai jetée dans la mer. Et donc, une petite chanson, c'est ça, quoi. C'est ce que je fais. J'écris tout le temps, j'adore ça, c'est ma passion, c'est dans mon sang. C'est une drogue pour le coup, mais une très bonne drogue. Et donc voilà, quelque part, Dear Little Song, ça veut pas dire que je leur accorde moins de valeur en disant qu'elles sont petites, mais j'en écris tellement que pour moi, j'ai plein de petites chansons qui ont toutes leur histoire, mais par contre, j'ai pas de chanson avec un grand C sur laquelle je travaille en permanence uniquement sur celle-ci. J'ai toujours plein de petites chansons en chantier. Et donc, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. J'aimais bien cette idée de dire « I wrote a little song ».
Victor Mécanique dans VMDN sur RFI. Pourquoi chante-t-il en anglais, Alain?
Ah, c'est une question qu'on lui pose souvent. Sachez que Victor écrit en français parfois, mais pas pour lui. À la base, il a commencé à écrire en anglais car il est tombé amoureux des Beatles. Chanter en anglais était une évidence. Il s'est passionné par l'écriture dans cette langue. Victor Mécanique est habitué à l'anglais. Il aime comment cela sonne et trouve ça simple. En revanche, il fait attention à ce que les paroles ne deviennent pas un prétexte, car il apprécie raconter de vraies histoires et qu'elles soient drôles ou tristes. Notez que cet opus est sorti sur le label Bonus Track Records, qui est cofondé par Yarol Poupeau. Yarol Poupeau, qui fut le directeur artistique de Johnny Hallyday, est toujours membre du groupe actuel FFF, la Fédération Française de Funk.
Bien sûr. Alors, on rappelle l'intitulé de son disque Singer, autrement dit chanteur en français.
Voilà. Alors, de ces trois proverbes ou citations à base du verbe chanter, laquelle, lequel, lesquels Victor Mécanique pourrait-il faire sienne ou pas? Chanter, c'est comme honorer l'oxygène. C'est Björk, où tout oiseau aime à s'entendre chanter, proverbe anglais, ou bien chanter est toujours un acte joyeux, Jacques Higelin.
Et ben je crois que je vais prendre celle de Björk, c'est celle qui me parle le plus spontanément.
Chanter, c'est comme honorer l'oxygène.
Ouais, j'aime beaucoup, ouais. C'est comme, non, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup, parce que j'y avais jamais pensé de cette manière-là. Mais oui, chanter, c'est comme honorer l'oxygène, comme lui donner une raison d'être là aussi.
Victor Mécanique, merci infiniment.
Merci à toi, c'était un plaisir. Take me back.
In Space et Singer, c'est le titre du premier album de Victor Mécanique, publié chez Bonus Track Records. Il sera en concert, m'avez-vous dit, Alain, au Bain à Paris le 27 octobre. Merci Alain. Dans un instant, le journal. Demain, dans VMDN, Chantal Leroux recevra Arthur H pour son mini-album Mort d'un chanteur prématuré dans la force de l'âge, en collaboration d'ailleurs avec le metteur en scène Wajdi Mouawad. Et vous m'en direz des nouvelles.
This is the end of a song I've been dreaming all along, and I just woke up. RFI.